Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes sur 48 FM, il est 9h, tout de suite votre point sur l'actualité avec Marine Liégeois. Bonjour Marine. Aujourd'hui 11 mars, c'est la journée internationale des start-up.
Bonjour Garance, les nouvelles entreprises innovantes sont en effet mises à l'honneur aujourd'hui, une occasion idéale de se pencher sur l'une d'entre elles, créée et développée par des étudiants liégeois. Des étudiants pour lesquels le service qualité de vie des étudiants organise par ailleurs une session ce mardi pour améliorer leur méthode de travail et leur organisation. Nous irons enfin nous plonger dans la cycloparade organisée vendredi dernier lors de la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Vous avez une idée d'un projet que vous souhaiteriez développer? Vous avez peur de sauter le pas car vous êtes encore étudiant? De plus en plus de jeunes de la région liégeoise se lancent pourtant dans la création de start-up, un anglicisme utilisé pour désigner littéralement une entreprise qui démarre, Arnaud.
Oui, et c'est le cas de Nicolas Desambre, Antoine Malherbe et Pierre Jeanchêne, trois anciens étudiants de l'Université de Liège. Pour un cours de leur programme d'ingénieur, les Liégeois avaient dû réfléchir à la création d'une start-up, comme nous l'explique Nicolas.
On devait décider de créer une start-up à partir de rien. Et donc, lors de ce cours, on avait deux coachs qui nous expliquaient un petit peu c'est quoi une start-up. Et au final, l'idée de ce programme, c'était vraiment donner la fibre entrepreneuriale aux étudiants, de manière plus générale, ingénieurs dans la voie de vie. C'est pas que spécifique à l'Université de Liège. Et c'est de là que nous, le projet a vraiment commencé.
L'équipe se forme alors autour de passions communes, la technologie et l'entrepreneuriat, et c'est la naissance de Get Your Way. Les trois garçons participent ensuite au concours StarTech, organisé par le WSL, et finissent par l'emporter. Une victoire qui les pousse à envisager un avenir concret pour leur projet.
C'est vraiment après avoir, on va dire, gagné le concours, on se dit « Ok, donc maintenant on continue le projet, comment est-ce qu'on fait ? On est toujours étudiant, on a plus le cours qu'on avait avec nos coachs, donc on se dit comment on va se partager ? » Assez vite, on nous a renseigné le Venture Lab. Et à partir de là, on a eu le statut étudiant-entrepreneur. On a eu un coach au Venture Lab qui nous suivait régulièrement. Et c'est là aussi qu'on a vraiment appris les bases de comment monter un projet en tant qu'entrepreneur et étudiant.
Et les désormais diplômés ont eu raison d'y croire. En janvier 2023, une première levée de fonds a été opérée pour leurs lunettes connectées et ce ne sont pas moins de 300 000 euros qui ont été récoltés. Pour Nicolas, toutes ces avancées n'auraient pas été aussi faciles si l'équipe ne les avait pas entreprises quand ils étaient encore étudiants.
Pour profiter de l'occasion d'être étudiant, essayer des systèmes d'accompagnement comme le Venture Lab ou des cours qui permettent de se lancer, ça permet de tester, voir si on aime ou on n'aime pas. Souvent, ces cours ou ces incubateurs, ça permet aux personnes qui ont déjà un peu une fibre entrepreneuriale de l'éveiller, de confirmer ou infirmer. C'est ça. Je pense que quand on est aux études, on a du temps et on s'en rend pas compte. Une fois qu'on est sur le marché de l'emploi, tous ces projets-là, ça devient fort compliqué de se lancer par après dans un projet entrepreneurial directement. Quoi. Ça prendra beaucoup plus de temps.
Un message qui se veut plein d'entrain pour les jeunes donc, pas besoin d'attendre la sortie des bancs universitaires pour faire de grandes choses. On reste du côté universitaire, vous ressentez des difficultés pour travailler vos cours pendant le deuxième quadrimestre, vous avez parfois l'impression de travailler des heures durant en vain, vous doutez de l'efficacité de vos comportements de travail. Un séminaire est organisé par l'équipe Guidance Études ce mardi, Fanny Curteau, conseillère pédagogique chargée de l'animation, au micro de Dorine Donati.
On va aborder principalement les différents outils de travail, donc les synthèses, les résumés, les plans, etc., pour que les étudiants puissent s'interroger sur ceux-ci et voir comment fournir un travail de meilleure qualité.
Le séminaire s'adresse principalement aux étudiants de première année de bac, parce qu'ils se trouvent dans cette année charnière qui sépare le secondaire de l'enseignement supérieur. Toutefois, tous les étudiants qui ont besoin d'un petit boost en méthodologie de travail sont les bienvenus.
Ce qu'on a quand même constaté, c'est que pour certains étudiants, c'était difficile de fournir vraiment un travail actif de la matière et de ne pas tomber dans les travers du recopiage, de l'étude par cœur sans comprendre, etc. L'objectif justement est de permettre aux étudiants de réfléchir sur ce qu'ils mettent en place et d'avoir un point de vue critique sur ce qu'ils mettent en place pour pouvoir justement améliorer ça et viser un travail meilleur.
À noter que ce séminaire est ouvert gratuitement, mais l'inscription est obligatoire. Ne traînez donc pas si vous souhaitez y participer. Et toujours en cité ardente, de nouveaux éclairages intelligents sont mis en place, Dorine.
La liaison entre Sainte-Marguerite et Glun vient d'en être équipée. Tandis que l'éclairage public traditionnel est allumé ou éteint à heure fixe, que les lieux soient fréquentés ou non, l'éclairage intelligent attendra le passage d'un piéton pour s'enclencher. Selon l'entreprise liégeoise Schrader, qui a procédé à l'installation, le gain économique devrait être de l'ordre de 80%. De quoi envisager une multiplication de ces équipements en région liégeoise.
Il est 9h06, vous écoutez toujours 48FM.
Week-end chargé pour les amoureux de cinéma avec les cérémonies des Magritte du cinéma samedi soir et celle des Oscars qui a eu lieu cette nuit, Arnaud.
La grande messe du cinéma belge était placée sous le signe de la jeunesse. De nombreux premiers films étaient en lice et c'est Dalva, premier long métrage de la réalisatrice Emmanuelle Nicot, qui raflait la mise. Alors, meilleur film, meilleur premier film, meilleure réalisatrice, meilleur scénario original, meilleur espoir féminin, meilleure actrice dans un second rôle et meilleur son. Outre-Atlantique, c'est le film Oppenheimer de Christopher Nolan qui a mis tout le monde d'accord en raflant 7 Oscars. Un sacre explosif pour le film sur le créateur de la bombe atomique. Favori avec 13 nominations, le long métrage qui a engrangé plus d'$1 milliard au box-office mondial a assumé son statut de grand gagnant en remportant la prestigieuse statuette du meilleur film. Aucun des films des plateformes de streaming, Netflix et Apple TV, n'ont obtenu de récompense malgré de nombreuses nominations. Et enfin, le cinéma européen était aussi à l'honneur. Anatomie d'une chute, le film de Justine Triet, a remporté l'Oscar du meilleur scénario original. Il avait déjà été sacré dans cette catégorie aux Golden Globes début janvier. Et c'est le film ukrainien 20 Days in Mariupol qui a remporté le prix du meilleur film documentaire, premier Oscar dans l'histoire du cinéma ukrainien.
Dans l'actualité internationale au Portugal, la droite remonte au pouvoir.
Le parti de centre-droit présidé par Luís Montenegro a remporté hier les législatives anticipées. Jusqu'ici, le Portugal était l'un des seuls pays européens encore gouvernés par la gauche. Mais en novembre dernier, le premier ministre socialiste António Costa a présenté sa démission suite à un scandale de corruption. Hier, le Parti socialiste est arrivé deuxième, mais le fait le plus marquant de ce scrutin est sans doute la montée en force du parti d'extrême droite Chega, AC en français, qui s'érige à la troisième place. De son côté, Luís Montenegro s'est engagé pendant la campagne à ne pas former de coalition avec l'extrême droite.
Et dans l'actualité sportive, le jeune belge Barry Baltus termine deuxième du Grand Prix du Qatar en moto 2 et s'offre le tout premier podium de sa carrière. Un bon résultat aussi obtenu pour l'équipe féminine de football liégeoise.
Le Standard Fémina s'est imposé face à Zulte Waregem grâce à un but de Laura Miller à la 94e minute. Après cette 18e journée de la Super League, elle termine ainsi deuxième au classement général. Les clubs masculins liégeois ont eu, eux, de leur côté, plus de difficultés. Malgré une défaite 1-0 face à Genk, le Standard est assuré de disputer les play-offs 2 grâce à la victoire du club de Bruges sur l'OHL. En division 1B, le RFC Serein s'est incliné face au SK Beveren et Deins s'est défait du RFC Liège.
C'était au cœur de l'actualité vendredi, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. À cette occasion, nous recevions dans ce journal une représentante de Collective et Ardente, le collectif d'associations et de militantes à l'initiative de la cycloparade féministe qui a déambulé dans les rues d'Outremeuse. Une 7e édition réussie puisqu'elle a rassemblé des centaines de manifestantes. Au cœur des revendications cette année, la lutte contre la précarité économique des femmes. Une thématique déclinée en chants, témoignages, ateliers et animations. Ambiance solidaire, nous étions sur place.
Elles sont des centaines à crier leur colère et leur ras-le-bol. Solidaires et déterminées, le but est de se faire entendre. Et une chose est sûre, pour Lisette, en matière de droits des femmes, rien n'est jamais acquis.
Moi, je suis née dans une famille de féministes, donc depuis 34 ans, je milite.
Et vous voyez des évolutions depuis 34 ans ?
Ben, on a pu en voir avec tout ce qui était IVG, pilule du lendemain. Ma foi, on fait des retours en arrière également.
Des plus jeunes ou moins jeunes, le message est unanime, le combat n'est jamais terminé. Maria, 68 ans, en est convaincue.
Tous les acquis sont en train de se détricoter et il faut se battre tous les jours pour pouvoir les garder.
Nous revendiquons radicaux.
Sous le feu des projecteurs de cette édition 2024, la précarité économique des femmes. Parmi les revendications, la revalorisation des métiers dits féminins liés aux soins et au nettoyage, l'augmentation du montant des pensions ou encore la suppression du statut de cohabitante légale. Delphine Rocus est chargée de projet au CVFE, le collectif contre les violences familiales et l'exclusion.
Il y a un slogan qui dit toujours le Wallon le plus pauvre était en fait une Wallonne. Donc pour nous, ce focus sur les violences économiques est vraiment important. C'est souvent des violences qu'on ne voit pas, peut-être qu'elles font moins, elles sont moins visibles que les violences physiques, mais elles sont importantes.
Et l'enjeu de la manifestation est de taille. À l'aube des élections de 2024, les citoyennes présentes en nombre comptent bien poursuivre la lutte pour leurs droits.
Ensemble contre les violences économiques, on est plus fortes!
Un reportage réalisé par Garance Hugo.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Belle journée à tous sur 48 FM.